La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Pierre-Yves McSween, bonjour.
Bonjour.
Bon, là, on a un seul sujet ce matin, mais c'est un sujet qui est assez controversé quand même. Alors, taxer les boissons sucrées et investir en prévention.
Oui, il y a le résultat de la chaire de recherche en fiscalité qui sort ce matin. Puis on nous parle de l'importance de taxer les boissons sucrées, mais les taxer au niveau qu'il faut que ça paraisse. Il faut que la perception soit là chez le consommateur. C'est-à-dire, faut que le consommateur arrive devant le produit.
Puis ils disent « Wow, ça coûte donc bien cher. »
« Wow, c'est taxé. Ouais. » Donc, il y a deux facteurs là-dedans. Un, faut que ça apparaisse dans le prix, pas soit une scène par bouteille. Et deux, faut que ce soit inscrit directement. Puis je te donne un exemple à l'épicerie. Les gens ne savent pas des fois, mais il y a des produits qui sont taxés et non taxés. Puis qui fait vraiment, honnêtement, là, le travail d'arriver à la caisse puis de se dire « Oh, là-dessus, j'ai payé 14,975% de plus parce que c'était un aliment préparé taxé, tandis que l'autre, ce l'était pas. » Pas grand monde.
Non.
Et donc, si je vous disais la chose suivante, 6 beignes sucrées, c'est non taxable, mais un beigne sucré, c'est taxable. Vous dites, hein? Ben oui, c'est pour ça que l'épicerie, les pâtisseries sont en paquet de 6. Et donc, ce que la chaire nous dit, c'est que pour les boissons sucrées, les breuvages sucrés, il faudrait que la taxe paraisse directement, que le consommateur ait, disons, un examen de conscience à faire pour être capable de changer son comportement de consommateur. Mais tout ça revient au départ. Pour les parents qui m'écoutent, j'en suis moi-même un, Louis. Quel combat quotidien. On doit se battre contre une industrie alimentaire. Et c'est donc pour ça que je me dis, moi, si jamais on taxait les boissons gazeuses, les boissons sucrées, faudrait que l'argent soit investi en prévention, puis en pour contrecarrer l'industrie alimentaire qui travaille très fort.
Très fort
pour contre nous.
Mais là, je vois déjà là les établir c'est quoi une boisson sucrée.
Ben,
est-ce qu'un jus d'orange par exemple que tu achètes dans le comptoir puis qui contient probablement autant de sucre qu'une bouteille de Coke, c'est considéré comme une boisson sucrée?
Ben, c'est un bon point parce que là on parle de probablement de sucre ajouté pour commencer tu sais exemple, tu te souviens-tu quand on était jeune le nouveau Tang là qui était tout sauf du jus d'orange.
Ouais.
Donc ça c'est un exemple, mais quand tu regardes aussi un Yop, tu sais, un Yop, c'est un yogourt à boire. L'industrie alimentaire nous dit, un yogourt à boire, bon pour les enfants. Ben non, c'est de la cochonnerie, OK? Mais on nous vend ça comme bon pour la santé dans le marketing, c'est pour les enfants. Ben non.
Ouais.
Et donc, la question est, où ça commence, ça se termine, t'as raison, parce que il y a des gens qui disent, écoute, le sucre alimentaire existe naturellement dans le jus, mais quand c'est un jus, ton corps l'absorbe moins, d'une façon, disons, plus néfaste que si tu mangeais une orange où il y aurait des fibres, où ça passait dans ton système digestif, puis qu'il n'y aurait pas le même impact. Et surtout, je dis tout à ça à mes enfants de leur donner un exemple. Tu vas jamais manger 4 oranges en ligne, mais tu vas boire un jus d'orange plus gros que les 4 oranges.
Qui en contient plus que ça. Ouais.
Exact. Et ils n'ont pas la conscience, disons, pour jouer avec ça. Alors, l'autre point, c'est quand tu arrives au niveau de la consommation, au-delà des taxes, il y a le marketing. C'est-à-dire que les produits sucrés, ça coûte pas cher à fabriquer. Et donc, on les met de l'avant. Nos enfants en veulent. Ils se font vendre. Quand t'arrives dans une foire alimentaire, il y a 20 ans, j'arrivais dans une foire alimentaire, on me disait, quelle boisson gazeuse vous voulez avec votre repas? On me disait pas de l'eau. Si je voulais de l'eau, c'était une bouteille, puis il y avait un extra. Et donc, pourquoi? Parce que le sucre, c'est calculé dans la marge des repas. On le met implicitement, c'est moins cher. Je te donne un exemple, les fast-food achètent leur sucre ou leur boisson gazeuse en sirop. Donc, t'achètes une caisse de sirop, c'est très peu pesant à transporter sur le volume de boissons gazeuses que tu produis, et donc tu peux vendre des boissons en fontaine à un prix dérisoire. Et c'est pour ça qu'on fait sa marge là-dessus. Et donc, on pousse ces boissons-là partout, et la consommation est poussée. Donc, faudrait la taxer très fortement si on veut que le consommateur se dise, « Sais-tu quoi? J'ai déjà mon produit de substitution dans la vie, c'est de l'eau, puis c'est gratuit. Alors, je suis prêt à payer pour le sucre depuis le début des temps. » Alors, la question est, à partir de combien de cents par breuvage, ça va changer mon comportement de consommateur? Est-ce que c'est l'augmentation du prix qui fait changer mon comportement au niveau de l'offre et la demande? Ou c'est plutôt le fait que ça soit écrit « boisson taxée néfaste pour la santé » qui va me faire réfléchir et qui va me dire « Ah, sais-tu quoi, je vais prendre un verre d'eau. » C'est la question.
OK, mais pourquoi tu mets pas une photo? Comme on le fait, c'est paquet de cigarettes.
Ouais. Le problème, puis avec le paquet de cigarettes, c'est que tu peux parler de cancer de poumon. Mais là, quand tu arrives avec la surpondération de sucre, tu as des problèmes de surpoids, de diabète de type 2, de problèmes de... Tu sais, faire le lien entre la consommation de sucre et l'état mental, c'est pas aussi évident sur une photo. Et donc, l'ensemble des facteurs est très important. Puis la question vraiment qui tue pour moi, c'est quel sera le montant de taxes qui sera assez grand pour faire pivoter le consommateur sans que l'industrie crie au scandale? Alors, c'est quoi la juste mesure? C'est-tu 10 cents par litre? 10 cents par dollar? C'est-tu 30 % 10 % Personnellement, c'est bien plus la prévention qui fonctionne au niveau de la consommation. Mais t'as raison, là. Si je parle juste de prévention, ça fonctionne pas. La preuve, c'est que le libre marché nous vend du sucre.
Vous écoutez La Chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
Mais après ça, tu fais quoi en prévention? Est-ce que, par exemple, l'argent récolté par cette taxe-là, tu l'envoies-tu dans le fonds consolidé ou t'obliges le gouvernement à faire des campagnes, par exemple, sur la consommation, l'effet néfaste que peuvent avoir ces boissons-là sur le, comme tu disais tantôt, sur la santé?
Moi, j'irais pour, c'est mon point de vue personnel, j'irais vraiment pour le primaire. T'sais, dans le fond, tu t'amènes des nutritionnistes à l'école. Il y a combien de gens au secondaire qui consomment des quantités de boissons énergétiques et de frappuccinos glacés sucrés à profusion qui n'ont aucune conscience de la conséquence sur leur santé? Écoute, il n'y a pas juste le vapotage au secondaire, le problème, là, la consommation de sucre est très grande. Donc, imagine, tu es en classe, tu consommes du sucre avec une boisson énergétique. Donc, d'un côté, tu es moins amorphe parce que tu consommes des produits qui t'éveillent. De l'autre côté, tu consommes du sucre qui est une forme de drogue qui change ton état d'esprit. Ouais. Et donc, moi, ça me fascine. Comme produit alimentaire, comme industrie alimentaire, on a minimisé la présence du sucre parce que ça coûte rien, Louis. Ça coûte rien à produire.
En dernière heure, j'apprends à l'instant, en tout cas, ça vient tout juste de sortir, que la Banque royale du Canada vient de conclure une entente pour acheter la banque HSBC Canada.
Oui.
Pour 13,5 milliards.
Ouais, c'est des sous, hein. Mais tu sais, la banque HSBC, c'est une banque canadienne qu'on voulait se départir. Je pense qu'on voulait se départir des activités au Canada et là, ça serait réussi. Si évidemment, on a les autorités réglementaires, la concurrence et tout ça. Mais une autre banque qui pourrait être ciblée pour la même raison, c'est la Banque Laurentienne. Tu sais, ce sont deux banques, disons, qui ne sont pas dans le Big Six puis qui pourraient être avalées par les autres. Ça, c'est à suivre. C'est un dossier à suivre de voir si un jour ça arrivera. Mais là, tu vois que ça va faire toute une banque, la Banque Royale, qui est déjà la plus grosse banque au Canada.
Mais 13,5 milliards, c'est une grosse transaction.
Oui, l'avantage que tu as quand tu achètes une banque, c'est que tu achètes une clientèle.
Ouais.
Tu achètes des prêts hypothécaires qui existent et qui sont éventuellement renouvelés avec un sentiment parfois d'appartenance. Tu achètes une autre marque. Hein. Oublie pas que la Banque Scotia, par exemple, avait acheté... Tangerine, hein, qui est l'ancien Intact, la banque, là. Intérêt qui compte.
Ouais.
Tu es ING à l'époque. Donc, ING Direct. Donc, tu vois que acheter des marques qui te prennent part de marché, ça vaut la peine, des fois.
Voilà. Pierre-Yves McSwing, merci.
Salut.
À demain.
Salut.
C'est 23.